Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2 heures d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info c'est avec Agnès Bonfillon cette semaine jusqu'à 13h. Bonjour Agnès.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Les bons sont publiés, en tout cas un accord de principe, ça y est, a été trouvé entre le Parti Socialiste et la France Insoumise en vue des législatives. Nouvelles sanctions européennes contre Moscou, cette fois c'est le pétrole russe qui est visé. Et puis la sécheresse est telle en Éthiopie, écoutez bien, que certains animaux changent de morphologie. Le dromadaire, par exemple, n'a plus de bosse.
Le burkini est-il un vêtement comme les autres? C'est la question que nous poserons à Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble. Et puis, je vous le disais, la catastrophe de Furiani, demain, cela fera 30 ans et nous serons avec Nicolas Georgerot, notre envoyé spécial en Corse.
La question du jour sur RTL.fr. Souhaitez-vous encore recevoir de la publicité dans votre boîte aux lettres? Eh bien, vous faites bien de dire ça parce que vous dites oui à 42% et non à 58%, c'est pas si net que ça. Hein. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Agnès.
Encore orageux cet après-midi.
Exactement, du sud-ouest aux frontières de l'est, des averses orageuses parfois accompagnées de grêle jusqu'en plaine, pas uniquement sur les reliefs. La Méditerranée reste à l'écart avec un beau soleil. Il fait très beau également sur la côte atlantique et c'est plus variable vers la Manche. Et entre la frontière belge, l'Île-de-France et le Poitou, là on peut avoir dans l'après-midi quelques petites averses sous un ciel entre nuages et éclaircies. Les températures de 16 à 21 degrés en général et jusqu'à 24 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure 13h pour une météo complète.
RTL Midi.
Allez, on tend l'oreille. Vous reconnaissez l'horloge ? Parlante, évidemment. Sachez qu'à partir du 1er juillet prochain, elle ne répondra plus. C'est terminé. Il faut dire que de moins en moins de personnes faisaient appel à ses services, Éric Vanier.
Ah oui, quasiment plus personne n'appelait, d'autant plus que c'est un service payant. Expliquez aux jeunes aujourd'hui qu'il faut débourser 1,50€ pour avoir l'heure. Ils vous prennent pour un fou et vous renvoient vers les téléphones portables et les ordinateurs qui vous donnent gratuitement la même information. Orange, de toute façon, n'y croyait plus depuis longtemps. Les équipements, et notamment les commutateurs datant du début des années 80, n'ont jamais été remplacés. Ils sont en bout de course. C'est donc la fin d'une époque. L'horloge parlante, c'était une institution naissante en 1933. Le directeur de l'Observatoire de Paris en avait assez que l'unique ligne de téléphone dont il disposait soit encombrée par des appels demandant l'heure exacte. Il décide donc de coupler l'horloge scientifique de l'Observatoire au réseau téléphonique avec réponse automatique. À l'époque, c'était une première mondiale. L'horloge parlante a connu son apogée à la fin du XXe siècle. Elle s'apprête à mourir à 89 ans.
Merci beaucoup Éric Vanier pour RTL.
L'heure exacte, on ne l'a toujours pas. En revanche, cette fois, c'est sur le Parti Socialiste et la France Insoumise qui sont parvenus à un accord de principe en vue des législatives.
Après une semaine de négociations, un compromis a finalement été trouvé. Le PS devrait donc officiellement rejoindre cette alliance comme Europe Écologie Les Verts lundi et les communistes hier. Thomas Desprez.
Oui, exactement. On y est presque, me confiait il y a quelques instants un négociateur côté insoumis. Ce n'est plus qu'une question de minutes, peut-être d'heures, mais toutes les parties prenantes, socialistes, écologistes et insoumis, sont désormais réunies autour de la même table pour rédiger la déclaration finale. Les communistes ne sont pas là, mais ils suivent eux aussi les négociations, fruit d'une dernière longue nuit de débats. Au cœur des discussions jusque tard ce matin encore, la question des circonscriptions. Combien le PS pourra-t-il sauver de sièges? Selon nos informations ce matin, la France Insoumise a consenti à 70 circonscriptions pour les socialistes, sans pour autant savoir combien sont gagnables. Un cadre du parti qui me disait qu'ils vont se réunir cet après-midi pour entériner l'accord final. Et à ce moment-là, seulement, on pourra enfin parler de fumée blanche.
Thomas Desprez en direct du siège de la France Insoumise.
Est-ce que la nouvelle Union Populaire de gauche va suffire à réaliser le vœu de Jean-Luc Mélenchon, le faire nommer Premier ministre? Il faudra attendre le résultat des législatives, bien évidemment.
Et en attendant, Jean Castex, lui et son gouvernement, sont réunis en ce moment même autour d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Cette fois, Vincent Derosier, normalement, c'est le dernier Conseil des ministres.
Alors, dernier conseil du quinquennat, c'est certain, Agnès. Dernier conseil de ce gouvernement avec Jean Castex à la manœuvre. Allez, on va dire que c'est certain à 99%. D'ailleurs, pour cette der, les secrétaires d'État ne sont pas conviés. Seuls les ministres ont le droit de fouler une dernière fois le gravier de la cour du palais. L'ordre du jour comporte deux petits points. Tout cela devrait vite être expédié. Jean-Yves Le Drian fera son point de situation traditionnel sur la situation en Ukraine. Et puis après 22 mois passés à Matignon, le Premier ministre, lui, devrait dire un petit mot, remercier ses ministres pour tout ce qui a été fait. Et puis après, c'est une autre aventure qui débute. Un conseiller me confie que Jean Castex devrait poser sa démission lundi, soit deux jours après la réinvestiture d'Emmanuel Macron. L'agenda du chef de l'État, qui est d'ailleurs presque vide, pour une raison simple. Le président doit trouver un nouveau Premier ministre, définir les priorités du quinquennat et valider chaque circonscription pour les législatives, une à une, un travail de titan.
Faites attention, petite tempête à l'Elysée, hein, Vincent Derosier, couvrez-vous.
Beaucoup de vent.
Actualité internationale, maintenant nouvelles sanctions européennes, sixième paquet de sanctions. Et après le charbon, c'est le pétrole russe qui est visé désormais par Bruxelles, Bénédicte Tassard.
Et oui, enfin, la Russie va perdre son plus gros client pour ses exportations de pétrole. Il a fallu deux mois de tergiversations, de négociations entre 27 pour qu'enfin la présidente de la Commission européenne prononce l'embargo. C'était ce matin à Strasbourg devant le Parlement européen.
Let's be clear. It will not be easy.
Soyons clairs, ce ne sera pas simple, parce que certains États membres dépendent fortement du pétrole russe. Mais nous devons simplement le faire. Alors aujourd'hui, nous proposons de bannir le pétrole russe de l'Europe.
Le texte précise des annulations de commandes de pétrole russe progressives sur 6 mois, avec une exception pour la Hongrie et la Slovaquie qui pourraient couper l'arrivée du gazoduc russe l'année prochaine seulement, le temps de trouver une solution pour remplir leurs cuves. D'ailleurs, le gouvernement hongrois se montre inquiet aujourd'hui. Nous n'avons pas assez de garanties pour notre sécurité énergétique, regrette-t-il. Autre sanction annoncée par Ursula von der Leyen, de nouvelles exclusions de banques russes du système bancaire international et 58 personnalités russes visées, dont le patriarche orthodoxe Kirill, des militaires coupables d'exactions à Boutcha ou encore à Mariupol.
Et sur le terrain, justement à Mariupol, Bénédicte, toujours aucune nouvelle depuis hier soir des civils encore bloqués sous l'usine Azovstal.
Alors à l'instant, le Kremlin réfute tout assaut de l'armée russe sur Azovstal. Hier, les militaires ukrainiens dénonçaient un bombardement et une attaque du site. Et puis, les autorités ukrainiennes relaient aujourd'hui le fait que les Russes sont en train de déblayer les gravats dans la ville de Mariupol pour laisser la place à une parade militaire le 9 mai prochain.
Merci Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL.
Parmi ces bourreaux, il y avait des Français. Vous avez peut-être entendu sur RTL ce matin le témoignage glaçant de notre invité Nicolas Hénin.
Ancien reporter de guerre, Nicolas Hénin est revenu sur les conditions de sa prise d'otage en Syrie par l'État islamique entre 2013 et 2014, notamment au tout début de sa détention lorsqu'il a tenté de s'enfuir et qu'il s'est fait reprendre par ses geôliers à une quinzaine de kilomètres.
Ils m'ont torturé.
Comment ?
Je préfère pas le dire.
Cela était français ?
J'ai été torturé par des Français, oui.
Maltraité, torturé, j'ai lu pendu par les pieds et mis au soleil ?
Beaucoup de choses, oui. Dans le groupe de 2 douzaines d'otages que nous étions, à peu près un tiers a été, je dirais, torturé de façon intensive. Au point d'avoir des blessures durables et notamment d'avoir une perte significative de masse corporelle.
Nicolas Hénin au micro d'Alba Ventura.
Fini.
RTL Midi.
Fini la distribution de publicité dans les boîtes aux lettres. Les prospectus vont être interdits par défaut.
Ce qui veut dire que pour continuer à en recevoir de la pub, vous devrez coller une étiquette, Pascal. Oui. Pub dès le 1er septembre prochain. En fait, ce dispositif va être testé pendant 3 ans dans 13 communes. Il va remplacer les fameux autocollants Stop Pub. Ça va permettre de voir si effectivement c'est bon pour la planète, ça évite le gaspillage. Autant dire que cela provoque d'ores et déjà une certaine inquiétude de la filière papier, Anaïs Bouissou.
Oui, entre les imprimeurs, la fabrication des fascicules, la distribution et la chaîne du recyclage, le secteur des imprimés publicitaires représente 105 000 emplois en France. 31 000 contrats, rien que pour distribuer les prospectus dans les boîtes aux lettres. D'après le COPACEL, l'Union des entreprises du secteur, si les publicités papier disparaissaient progressivement, ces emplois et les entreprises qui vont avec seraient en danger. Pire, il y a une crainte d'effet domino. S'il y a moins de papier pub à éditer, est-ce qu'il sera encore rentable de n'imprimer, entre guillemets, que des journaux et des livres? Les coûts de production risquent d'augmenter en fragilisant un peu plus le secteur du papier. La consommation des papiers graphiques est déjà en baisse ces dernières années, de 4 à 5 % par an. Mais cette tendance pourrait s'accélérer pour faire place davantage encore aux abonnements et publicités sur Internet.
Les précisions d'Anaïs Bouissou pour RTL. Puisque visiblement, les images d'enfants squelettiques, les cadavres d'animaux ne semblent pas interpeller grand monde en disant que les dromadaires n'ont plus de bosse, peut-être qu'on va un peu plus tendre l'oreille. C'est vrai, l'Éthiopie connaît sa pire sécheresse, Virginie Garin, et même les camélidés n'ont plus de réserve.
Oui, parce que la bosse du dromadaire, c'est son stock de nourriture. C'est 15 kilos de graisse. Et en Éthiopie, en ce moment, il y a des dromadaires qui n'ont plus de bosse du tout. Dans l'est du pays, il n'a quasiment pas plu depuis un an et demi. C'est une région où la population vit essentiellement de l'élevage et les troupeaux de chèvres, de vaches meurent de soif et de faim. Donc les habitants n'ont plus rien à manger. Des sécheresses, il y en a toujours eu en Afrique. Mais depuis 20 ans, il y en a deux fois plus. Il n'y a pas eu de saison des pluies depuis 3 ans en Éthiopie. Et une dépêche de l'agence France Presse raconte ce matin l'histoire de cette famille dont les 100 chèvres et les 3 ânes sont morts. Les dromadaires se sont mangés entre eux. La maman et ses 10 enfants ont marché 5 jours pour rejoindre une ville. Ces populations nomades, elles s'entassent dans des bidonvilles. Selon les Nations Unies, 20 millions de personnes sont dans cette situation, menacées par la famine au Kenya, en Somalie et en Éthiopie.
Merci beaucoup Virginie Garin. Je termine sur tout autre chose, Pascal, en disant oui, que Liverpool s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions grâce à sa victoire hier 3-2 sur le Villarreal. Et ce soir, le Real Madrid reçoit Manchester City, sachant que les Anglais, je vous le rappelle, ont gagné 4-3 à l'aller à l'issue d'un match de dingue.
À ne pas manquer, évidemment, ce soir. Dans une seconde, nous sommes avec Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, qui souhaite autoriser le port du burkini dans les piscines municipales, ce qui provoque un tollé. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi, avec Agnès Bonfillon et Pascal Pro.
Le burkini, c'est pas un vêtement comme un autre. C'est un symbole de l'islam politique. Et je considère comme très grave qu'un maire élu de la République accepte ce genre de recul et de communautarisme. Qu'est-ce que cherche à faire le maire de Grenoble ? Acheter les voix de l'islam politique ? Et donc, il faut être capable de dire « stop, on arrête ». Donc je couperai les subventions, j'ai été très clair dessus et je pense qu'il faut réagir.
La colère de Laurent Wauquiez, le président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui menace de couper les subventions à Grenoble si le maire écologiste de la ville autorise le port du burkini dans les piscines municipales. Le maire de la ville, c'est vous, Éric Piolle, bonjour.
Bonjour.
Laurent Wauquiez vous accuse de faire du clientélisme, de l'électoralisme. Que lui répondez-vous ?
Oh, on assiste là à une zémorisation des esprits. Hein. Cette délibération sur le règlement des piscines devrait être un non-sujet. Pourquoi ? Parce que le seul objet, c'est de supprimer les interdits qui ont été introduits il y a une dizaine d'années et qui n'ont rien à voir avec l'hygiène et la sécurité. Donc voilà, c'est une polémique dont le seul intérêt est de rappeler la loi 1905 qui vous permet de vous habiller comme vous le souhaitez. Partout, hein, vous pouvez vous habiller comme vous le souhaitez. L'État ne régule pas votre tenue vestimentaire. Et ben, vous pourrez venir également seins nus à la piscine, sans problème. Nous n'avons pas à vous dicter votre tenue au-delà des questions d'hygiène et de sécurité.
Monsieur Piolle, je vous écoute depuis plusieurs jours. Je voudrais savoir comment vous interprétez celle qui porte le burkini sur une plage ou en piscine.
J'ai pas à interpréter, en fait. Comme quand je croise quelqu'un dans la rue, je me dis pas, tiens, pourquoi il porte ça ? Qu'est-ce sens ça ? Est-ce que ça a un sens religieux ? Est-ce que ça a un sens politique ? Est-ce que ça a un sens syndical ? Est-ce que ça a pas de sens ? Voilà.
Monsieur Piolle, moi, je vais l'interpréter pour vous. Je vais l'interpréter pour vous, monsieur Piolle, le burkini. C'est le prolongement du voile et de la burqa. Sur les plages ou à la piscine, l'objectif est clair, c'est enfermer le corps des femmes dans un carcan pour ne pas exciter la libido masculine. Je vous l'apprends peut-être, mais c'est ça le burkini. Sachez-le.
de toutes les interdits réglementaires en fait, qui portent sur la tenue des femmes. Interdire à une femme aujourd'hui de se baigner topless dans une piscine, c'est-à-dire considérer que la poitrine de la femme a un autre statut que la poitrine de l'homme, c'est un interdit vestimentaire qui est posé sur la femme et c'est toujours sur la femme. Donc éduquons plutôt le regard des hommes pour que, comme à l'inverse de ce que disait M. Blanquer, les filles puissent aller en crop top à l'école si elles ont envie d'aller en crop top à l'école. C'est ce regard-là qu'il faut éduquer. Et après, là où je peux vous rejoindre, c'est que nous savons qu'il y a en France aussi un islam politique qui pousse et qui, à plein de moments, enfreint la loi de 1905. La loi de 1905, elle dit quoi ? Elle dit que je ne peux pas vous interdire d'exercer votre culte, mais je ne peux pas non plus faire pression pour que vous exerciez un culte.
Mais justement,
donc, là où il faut que l'État soit plus fort, c'est que faire respecter cette loi, ça veut dire que les personnes qui subissent des pressions pour exercer un culte, aujourd'hui l'islam, hier ça pouvait être le catholicisme, mais évidemment ça n'est plus le cas vu la déchristianisation de notre pays, mais il y a là quelque chose qui relève de l'infraction pénale de la loi de 1905 qui n'est pas appliquée, et du coup on cherche d'autres combats en tordant la loi. Donc revenons à des choses simples.
Bah, si vous me permettez, ce que je trouve tout à fait étonnant, monsieur Piolle, c'est que lorsque je vous demande ce que vous pensez du burkini, vous n'apportez pas de réponse. Vous dites que vous n'avez pas à juger cela. Ah, ça s'appelle soumission et ça a été écrit dans un livre de Michel Houellebecq. C'est que vous êtes maire d'une grande ville comme Grenoble et vous n'êtes pas capable de juger une femme qui porte un burkini et d'avoir un avis dessus. Eh bien ça, je trouve cela inquiétant, effectivement, dans le regard d'un maire d'une grande ville comme la vôtre.
Eh bien oui, mais parce que en fait, là où il faut qu'on avance, c'est de se dire que partout, l'État doit continuer à avancer sur l'éducation populaire et sur la liberté qui est portée pour toutes et tous. Et l'oppression qui est faite sur les femmes aujourd'hui, la pression qui est faite sur certaines femmes de confession musulmane pour porter le voile, en fait, à la piscine, il n'y a pas de burkini. À Rennes, autorise déjà à lever cet interdit il y a 4 ans. Et en fait, il n'y a personne qui va se baigner avec un burkini. Par contre, il y a des gens qui, du coup, peuvent y aller avec un maillot couvrant pour se protéger du soleil. Et donc, tout ça, en fait, est une question d'éducation populaire et de combat politique. Et on ne fera pas un combat politique avec un interdit légal. Et aujourd'hui, je rappelle, la piscine, c'est comme la rue. Donc, si vous voulez interdire le voile à la piscine, il faut que vous vouliez interdire le voile dans la rue. Si M. Wauquiez a un problème avec le voile, qu'il mène sa quête en interdisant les femmes voilées dans les TER. Ça, c'est les trains express régionaux, ça relève de sa compétence. Il peut mener son combat contre l'islam s'il le souhaite en interdisant l'accès aux trains régionaux aux femmes voilées.
Monsieur Piolle, ça veut dire quoi aujourd'hui ? Est-ce qu'à Grenoble, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas venir se baigner, qui s'empêchent de venir se baigner parce qu'elles ne peuvent pas porter ce vêtement couvrant qu'est le burkini ?
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que l'expérience de Rennes montre qu'en fait, il n'y a pas de pratique derrière. On lève un interdit et j'espère qu'il y aura des femmes seins nus qui pourront venir se baigner. J'espère qu'il y aura des hommes qui pourront mettre des maillots couvrants parce qu'ils n'ont pas envie de montrer leur forme, parce qu'ils ont des cicatrices, parce qu'ils sont dans un processus transgenre, parce que je ne sais pas quoi, et que chacun puisse s'habiller comme il le souhaite dans le respect de la loi et juste en regardant des questions d'hygiène et de sécurité à la piscine, mais dans la rue, tout le monde peut s'habiller comme il le souhaite.
On rappelle que le vote en conseil municipal aura lieu le 16 mai prochain pour une application qui doit entrer en vigueur le 1er juin prochain. Merci Eric Piolle.
Merci Monsieur Piolle d'avoir répondu à nos questions et je ne doute pas que ça puisse faire réagir dans quelques instants les auditeurs. À tout de suite pour notre deuxième thème, il y a 30 ans, Furiani.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute. Un
impact. RTL Midi, avec Agnès Bonfillon et Pascal Pro.
Bonjour, édition spéciale ce matin sur RTL. La catastrophe du stade de Furiani a fait 16 morts, 666 blessés, dont 60 dans un état très grave. Nous allons consacrer l'essentiel de cette tranche d'information à cette tragédie en retraçant le film de cette soirée de tristesse et de douleur et en essayant de comprendre...
La catastrophe de Furiani. Demain, cela fera 30 ans jour pour jour que juste avant le coup d'envoi de la demi-finale entre Bastia et l'OM, la partie haute de la tribune nord provisoire s'écroule. Au final, le bilan sera de 18 morts, de 2357 blessés. Nicolas Georgerot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de RTL en Corse. Vous êtes sur le site de Furiani. 3 décennies plus tard, toujours beaucoup de douleur lorsqu'on évoque ce drame, mais aussi beaucoup, beaucoup de solidarité.
Oui, 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 tout à fait. Beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances dans ce qui a été la plus grande catastrophe du sport français. Et c'est vrai que 30 ans, 3 décennies, l'équivalent d'une génération, c'est très marquant quand vous discutez avec les uns et les autres ici, des blessés, des familles de victimes. Beaucoup vous racontent que finalement, même avec le temps qui passe, c'est comme si c'était hier. On ne mesure, ou en tout cas on ne mesure pas, où on mesure très difficilement l'onde de choc sur l'île. Il y avait presque 20 000 personnes dans ce stade Armand Cesari à Furiani. On avait doublé la capacité. C'est quasiment un dixième de la population corse à l'époque. Et sur une île où pratiquement tout le monde se connaît, vous imaginez les traumatismes dans toutes les familles.
On va justement écouter le témoignage très émouvant de Karine Grimaldi qui a perdu sa sœur Santa, 15 ans à l'époque lors du drame, et elle-même est en fauteuil roulant depuis.
C'est qu'en fin de compte, vous ne guérissez jamais. Ça vous poursuit, c'est présent au quotidien. Après, je ne vais pas vous dire que je pense à Furiani et tous les jours non plus, heureusement pour moi. Pour avancer, il faut aussi d'avoir l'esprit ailleurs et de s'occuper, de faire des choses pour combler ce vide, ce manque et faire en sorte d'avancer. Je dirais que j'ai eu beaucoup de haine et beaucoup de mépris au départ. C'était un peu aussi la révolte, un petit peu le fait d'être brisée. Et puis la jeunesse qui fait que vous êtes encore plus nerveuse, impulsif. Et avec le temps, on s'apaise et heureusement, je pense, ça apporte aussi beaucoup. Mais sorti de là, avec le temps, on n'oublie pas quand même.
Nicolas Georgerot qui est en direct de Corse avec nous. Ce qui est étonnant, Nicolas, peut-être, c'est que j'ai l'impression que la Fédération française de football n'a pas prévu quelque chose. C'est la finale de la Coupe de France samedi soir. Je sais que certains souhaitaient peut-être que les joueurs portent un brassard noir, même si c'est le 7 mai, alors que la catastrophe a eu lieu le 5 mai. Et j'ai le sentiment aussi que la Ligue nationale n'a pas prévu quelque chose de particulier pour célébrer ses 30 ans.
Et il n'y aura pas la présence non plus de Roxana Maracineanu, ministre oui. des Sports. Demain, aux commémorations, elle va fleurir la plaque qui est au ministère. Alors c'est vrai, et c'est diversement apprécié ici. Et c'est un petit peu à l'aune aussi, malheureusement, de ce qu'il y a depuis 30 ans. Parce que dans cette catastrophe, finalement, personne n'a endossé les responsabilités. Et notamment du côté fédéral et du côté de la Ligue de football professionnel. On n'a peut-être pas tirer toutes les leçons et on s'est un petit peu masqué et ça a été très diversement vécu. Il y a eu énormément de colère, notamment il y a 10 ans, parce que la Fédération française de football avait programmé dans son calendrier la finale de la Coupe de France 2012 un 5 mai. Et ça a ravivé le collectif des victimes qui, en fait, c'est la jeune génération qui s'en est emparée, Josefa Ghidicelli, qui a 34 ans, qui avait 24 ans à l'époque, quand elle a pris la direction de ce collectif, pour dire non,
son
ça c'est pas
décédé,
possible.
Je crois,
c'est pas possible.
Madame Ghidicelli.
Son père, qui était technicien Radio France,
est décédé.
Et justement.
Et c'est toute la jeune génération qui a porté, effectivement, toute cette sacralisation du 5 mai.
Et puisqu'on parle de la jeune génération, Nicolas, il y a vraiment une transmission, la jeune génération vit avec ce souvenir de Furiani.
Oui, c'est profondément ancré là actuellement à Furiani. Aujourd'hui, avant le temps de la solennité, du recueillement demain, il y a un tournoi, il y a des tournois de jeunes où en fait entre 7 ans et 12 ans, il y a plein de jeunes qui sont en train de jouer au foot sur la pelouse de Furiani. Et il y a ce devoir de mémoire, cette mémoire collective, cette transmission. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que c'est profondément ancré dans la société en Corse.
Avant que l'on se quitte, j'aimerais que l'on écoute justement le témoignage d'Hugo que vous avez recueilli. Hugo, il a 13 ans et il joue dans un court-métrage sur Furiani qui évoque justement cette transmission dont nous parlions.
C'est profondément ancré, je pense que tous les Corses connaissent cette catastrophe. Dans les familles on en parle, ça va de génération en génération. Mon grand-père en avait parlé à mon père, ma tante avait vécu, on en a parlé à mon père m'en a parlé, etc., etc. J'en parlerai à mes enfants, à mes petits-enfants, à tout le monde, j'en parlerai. Voilà.
Merci beaucoup Nicolas Georgerot en direct de Corse pour RTL, en direct de Furiani. Sachez que ce soir dans RTL Soir, Julien Cellier recevra Bastien Dumas, le fils de
Jean-Baptiste
Dumas, qui était notre confrère au moment du drame. Il couvrait ce match pour RTL. Il n'a pas survécu à ce drame. Il s'est donné la mort quelques mois plus tard. Nous pensons bien à lui aujourd'hui, ainsi qu'à sa famille.
Et Hervé Béraud était également dans la tribune, comme beaucoup de journalistes, Gilles Verdès, que vous connaissez, Jacques Vendroux, qui ont survécu à ce drame. Il est 12h58, on pourra en parler avec les auditeurs dans quelques instants. On pourra également appeler Gérard Vandergut, qui réalisait ce soir-là, pour TF1, le match Bastia-Marseille. Et il a peut-être sauvé la vie à Thierry Roland et à Jean-Michel Larquet, parce qu'il les a déplacés de là où ils devaient être pour les mettre un peu plus bas dans la tribune, ce qui fait que Thierry et Jean-Michel, ce soir-là, n'étaient pas tombés, comme disent les Corses. Les Corses disaient, de nombreuses journées après, il est tombé, ils sont tombés. À tout de suite.
RTL Midi.